Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal, suivi du commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, la mise au point et le rappel des titres de l'actualité.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le vice-président indonésien a demandé à l'Amnesty International de comprendre la peine de mort. Le Vietnam et le Cambodge soutiennent la proposition de l'Indonésie sur les salaires en ASEAN. Le Parlement veut s'échanger les étudiants entre l'Indonésie et l'Iran. Les États-Unis ont donné une subvention de 700 000 dollars américains pour le secteur de l'aviation en Indonésie. Des entreprises indonésiennes promeut les produits en Roumanie. Le ministère du Commerce optimise la coordination des exportations sud-américaines. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le vice-président indonésien, M. Yusuf Kalla, a demandé à l'Amnesty International de comprendre la peine de mort qui entrait en vigueur en Indonésie, notamment liée au cas d'abus de drogue et les médicaments dangereux. Yusuf Kalla, après une rencontre avec le secrétaire général de l'Amnesty International, Sally Seti, à Kuala Lumpur, en Malaisie, a déclaré jeudi que le nombre de morts à cause de drogue était plus grand que 15 personnes qui ont été condamnées à mort. Il a expliqué que cette loi avait des caractéristiques différentes dans chaque pays, comme la peine de mort en Indonésie, en particulier sur les drogues et le terrorisme. Par conséquent, selon Yusuf Kalla, le gouvernement va respecter la peine pendant qu'elle est en vigueur. Le Vietnam et le Cambodge soutiennent la proposition indonésienne sur le salaire minimum pour les travailleurs dans les pays membres de l'ASEAN. Le vice-président Yusuf Kalla, en marge du Forum économique mondial de l'ASEAN à Kuala Lumpur, en Malaisie, a déclaré jeudi que le Vietnam soutenait fortement la nécessité de l'ASEAN de se prémunir ses travailleurs pour ne pas être exploités. Selon Yusuf Kalla, dans un proche avenir, il y aura une réunion des ministres du Travail en ASEAN et sa partie ne veut pas que les pays de l'ASEAN soient mis en question sur les bas salaires des travailleurs par les grandes entreprises multinationales. Yusuf Kalla a ajouté, il invitait le secrétaire général de l'ASEAN pour discuter de ces questions avec le Vietnam et le Cambodge. Le vice-président du Parlement indonésien, M. Agus Hermanto, a affirmé qu'il y avait le désir de l'Indonésie et de l'Iran pour renforcer la coopération dans le domaine de l'éducation à travers l'échange d'étudiants. C'est ce qu'a affirmé M. Agus Hermanto après avoir rencontré l'ambassadeur de l'Iran à l'Indonésie, Faliullah Muhammadi, à Jakarta jeudi. Selon Agus Hermanto, les deux pays sont en train de s'efforcer la coopération dans le domaine religieux. Plutôt, l'ambassadeur de l'Iran à l'Indonésie a déclaré beaucoup de potentiel entre les deux pays qui pourraient être améliorés, y compris dans le domaine du commerce et de la technologie. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Les États-Unis, à travers l'Agence de commerce et de développement de l'Amérique, a signé l'accord de subvention avec la Direction générale de l'aviation du ministère des Transports. La signature de la convention de subvention d'un montant de 700 000 $ américains est effectuée par le conseiller des affaires commerciales à l'ambassade américaine, Rosemary Galen, avec le directeur d'aviation, Supra Satyo, assisté par l'ambassadeur américain Robert Blake, conjointement avec le ministre des Transports, M. Ignatius Jonan, à Jakarta jeudi. La subvention sera utilisée pour financer des projets de développement de systèmes de sécurité de l'aviation dans la région orientale de l'Indonésie. L'ambassadeur américain en Indonésie, Robert Blake, a dit « Comme un vaste archipel avec une grande population et dynamique, le transport aérien était très important pour l'économie et la société de l'Indonésie. Cela vise à améliorer la sécurité aérienne et également d'améliorer l'économie, notamment en Papouasie et au Molouk. » 14 entreprises indonésiennes de divers secteurs font la promotion des produits en Roumanie en participant à l'exposition internationale des biens de consommation connue sous le nom TIPCO. C'est la plus grande exposition en Roumanie qui est souvent utilisée par des entreprises locales et étrangères d'introduire des produits et faire des affaires. Selon le communiqué de presse de l'ambassade d'Indonésie à Bucarest, cité par Antara jeudi, des entreprises indonésiennes qui sont en expansion et sont présentes dans l'exposition de produits à Bucarest, entre autres PT IKT Jaya Bersama avec des chaussures et des gants de golf, ainsi que PT Kamakmuran Niaga Mandiri qui est un exportateur de café. La participation indonésienne à l'exposition est l'un des programmes de l'ambassade d'Indonésie à Bucarest pour promouvoir le potentiel économique de l'Indonésie. TIPCO est une bonne occasion pour les entreprises indonésiennes de présenter leurs produits à la société roumaine et d'établir la coopération avec les entreprises locales. Le ministère du Commerce a l'intention d'améliorer la coordination afin d'accroître les exportations de produits indonésiens au marché américain à travers les informations du potentiel de marché dans cette région. Le directeur par intérim du commerce extérieur du ministère du Commerce, M. Karyanto Supri, a dit à Bandung jeudi que la coordination et l'amélioration des réseaux d'informations sur le marché étaient très importants parce que le marché d'exportation dans cette région est assez grand et les produits exportés sont entre autres les composants automobiles, les machines et textiles. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Chers amis lointains, pour la rubrique suivante, voici donc le commentaire et pour le titre, le discours de raviver l'accord de paix israélo-palestinien a accueilli par l'Israël. Le discours sur les pourparlers de paix israélo-palestinienne réémerge. Il y a quelques jours, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi espère de mener les pourparlers de paix israélo-palestinienne comme la meilleure solution pour la cessation de l'initiative de paix en 2002. La déclaration du président Abdel Fattah al-Sissi a été répondue par l'Israël. Le 31 mai, le premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahu, a déclaré qu'il était prêt à accepter la proposition et à raviver l'initiative des États arabes à propos de la paix palestinienne. Cette initiative contient l'offre des pays arabes à l'Israël. Le premier ministre Netanyahu a réitéré l'attitude du gouvernement dans la conviction que les États arabes étaient prêts à reconnaître l'Israël. Netanyahu a confirmé que le point de vue de son gouvernement est que les États arabes sont prêts à reconnaître l'Israël en échange de la paix et de la reconnaissance d'Israël à la souveraineté palestinienne, l'administration de Tel Aviv, comme a été déclaré par le premier ministre Netanyahou, a estimé que l'initiative des États arabes pourrait aider à raviver les efforts de paix avec la Palestine qui ont été suspendus. Pendant ce temps, il n'y a pas eu de commentaires de la Palestine, le Hamas et le Fatah. Comme il est connu que l'Israël a suspendu les efforts de paix avec la Palestine après que Jérusalem ait formé un gouvernement d'union associant le Hamas et le Fatah. Tel Aviv a condamné sévèrement cette politique. L'effort de paix et la résolution des conflits sont en fait les meilleures solutions pour mettre fin à la guerre et le long conflit. Mais en ce qui concerne les relations israélo-palestiniennes, le point le plus important est la reconnaissance immédiate de l'indépendance de la Palestine comme un État souverain avec des frontières territoriales. L'agression militaire et l'annexion de territoires palestiniens par l'Israël pourraient bientôt se terminer par l'accord de paix. Le gouvernement indonésien doit encourager toutes les initiatives qui sont faites à reconnaître l'indépendance de la Palestine et à mettre fin au conflit prolongé qui a entraîné des impacts négatifs sur la vie du peuple palestinien. Serge Thor, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec l'histoire d'aujourd'hui. Le 3 juin 1947, les forces armées indonésiennes, qui est la fusion entre les forces armées de la République d'Indonésie et les milices du peuple indonésien, inaugurées par le président Sukarno. Parce qu'à cette époque-là, en Indonésie, il y avait d'autres forces armées. Donc, le 5 mai 1947, le président Sukarno a publié un décret pour unifier les forces armées de la République d'Indonésie. Les forces armées indonésiennes, TNI, se composent de 3 forces armées, telles que l'armée de terre, la marine et la force aérienne. TNI est dirigée par un commandant, tandis que chaque force est dirigée par un chef d'état-major. Le 3 juin 1989, le massacre de Tiananmen. Des manifestations de la place Tiananmen en 1989 étaient une série de manifestations dirigées par les étudiants a eu lieu sur la place Tiananmen à Pékin, la République populaire de Chine, commencée depuis le 15 avril 1989. La protestation était contre l'instabilité économique et la corruption politique qui est ensuite devenue la manifestation pro-démocratie. On estime que plus de 3000 personnes sont mortes. La manifestation était causée par la mort de Hu Yaobang, le secrétaire général du Parti communiste chinois, qui est forcé de démissionner de son poste par Deng Xiaoping. La répression contre les manifestations de la place Tiananmen est critiquée par le gouvernement des États-Unis et d'autres pays occidentaux contre la domination de la République populaire de Chine. Le 3 juin 2006, le Monténégro a proclamé son indépendance. Cette décision se réfère au résultat d'un référendum organisé le 21 mai 2006. Outre comme un pays indépendant séparé des autorités gouvernementales de la Serbie, le Monténégro est devenu le dernier ex-Yougoslavie qui a déclaré son indépendance. Dans le document de l'indépendance indiqué que Monténégro était décrit comme multiethnique, multiculturel et appliquait la liberté religieuse du pays. Le Monténégro a également une base juridique et les lois régissant l'économie de marché. L'objectif est la stratégie nationale de Monténégro et adhère à l'Union européenne et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ou de l'OTAN. Les priorités initiales pour le nouveau gouvernement et les efforts pour adhérer à l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Serviteurs, bonsoir. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter la mise au point ayant pour le titre « Protéger les travailleurs indonésiens en Malaisie ». L'une des travailleuses indonésiennes, Rita Krisdianti, provenant de Ponorogo, l'est de Java, qui a travaillé en Malaisie, est condamnée à mort par la Cour de Penang en Malaisie. Il a été accusé de passer en contrebande les drogues du type de shabu pesant 4 kg en Malaisie. En réponse à cette question, un membre de la commission 9 du Parlement, Nihatul Wafiro, à Jakarta, mardi 31 mai 2016, a insisté le gouvernement à s'efforcer au maximum de défendre Rita Krisdianti. Nihatul a demandé au gouvernement de continuer à fournir à la défense et de prouver aux juges que Rita était simplement une victime et non pas la civile ouvrière, les propriétaires ou les utilisateurs. Nihatul a même demandé aux autorités malaisiennes de la libérer si elle est prouvée non coupable dans les appels contre la peine de mort. Elle a demandé à la Malaisie de ne pas être précipitée pour exécuter la peine de mort contre Rita. Nihayatul espère également que la Malaisie imite le gouvernement indonésien de reporter les exécutions du deuxième volume contre une travailleuse philippine, Marie-Jean Festa Veloso, parce qu'elle utilisait ses droits légaux afin de prouver son innocence. La même chose également est affirmée par un autre membre de la commission 9, Saleh Partaonandoulay. Selon lui, le gouvernement a assez de personnel pour s'occuper des travailleurs indonésiens tels que le ministère de la Main-d'œuvre, l'Agence nationale de la gestion et de la protection des travailleurs, le ministère des Affaires étrangères et même au ministère des Affaires sociales. Il y a un directorat qui s'occupe des travailleurs qui ont le problème. Le potentiel possédé par toutes les institutions devrait être maximisé. Saleh espère que l'expertise du gouvernement indonésien dans la diplomatie peut libérer Rita d'une condamnation à mort. Pendant ce temps, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, citée par Antara mardi 31 mai, a déclaré que le gouvernement va améliorer l'aide juridique à la travailleuse de Ponorogo, Rita Krisdianti, qui est condamnée à la peine d'asion à Penang en Malaisie. Elle a expliqué que l'Indonésie respectait les lois en vigueur dans ce pays, mais l'obligation du gouvernement est de fournir l'aide juridique afin que les droits légaux du citoyen indonésien soient remplis. Retno Marsudi a également déclaré qu'elle avait communiqué avec des représentants du ministère des Affaires étrangères en Malaisie en ce qui concerne l'appel. En outre, elle a également communiqué avec la famille de Rita à Ponorogo, l'est de Java, pour fournir des informations relatives à ses développements juridiques en Malaisie. Serviteur, c'était la mise au point pour ce soir.
Le vice-président indonésien, M. Yusuf Kalla, a demandé à l'Amnesty International de comprendre la peine de mort qui entrait en vigueur en Indonésie, notamment liée au cas d'abus de drogue et les médicaments dangereux. Youssef Kala, après une rencontre avec le secrétaire général de l'Amnesty International, Sally Seti, à Kuala Lumpur, en Malaisie, a déclaré jeudi que le nombre de morts à cause de drogue était plus grand que 15 personnes qui ont été condamnées à mort. Il a expliqué que cette loi avait des caractéristiques différentes dans chaque pays, comme la peine de mort en Indonésie, en particulier sur les drogues et le terrorisme. Par conséquent, selon Youssef Kala, le gouvernement va respecter la peine pendant qu'elle est en vigueur. Le Vietnam et le Cambodge soutiennent la proposition indonésienne sur le salaire minimum pour les travailleurs dans les pays membres de l'ASEAN. Le vice-président Youssef Kala, en marge du Forum économique mondial de l'ASEAN à Kuala Lumpur, en Malaisie, a déclaré jeudi que le Vietnam soutenait fortement la nécessité de l'ASEAN de se prémunir ses travailleurs pour ne pas être exploités. Selon Youssef Kala, dans un proche avenir, il y aura une réunion des ministres du Travail en ASEAN et sa partie ne veut pas que les pays de l'ASEAN sont mis en question sur les bas salaires des travailleurs par les grandes entreprises multinationales. Youssef Kala a ajouté, il a invité le secrétaire général de l'ASEAN pour discuter de ces questions avec le Vietnam et le Cambodge. Le vice-président du Parlement indonésien, M. Agus Hermanto, a affirmé qu'il y avait le désir de l'Indonésie et de l'Iran pour renforcer la coopération dans le domaine de l'éducation à travers l'échange d'étudiants. C'est ce qu'a affirmé M. Agus Hermanto après avoir rencontré l'ambassadeur de l'Iran à l'Indonésie, Faliullah Muhammadi, à Jakarta jeudi. Selon Agus Hermanto, les deux pays sont en train de s'efforcer la coopération dans le domaine religieux. Plutôt, l'ambassadeur de l'Iran à l'Indonésie a déclaré beaucoup de potentiel entre les deux pays qui pourraient être améliorés, y compris dans le domaine du commerce et de la technologie. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Les États-Unis, à travers l'Agence de commerce et de développement de l'Amérique, a signé l'accord de subvention avec la Direction générale de l'aviation du ministère des Transports. La signature de la convention de subvention d'un montant de 700 000 $ américains est effectuée par le conseiller des affaires commerciales à l'ambassade américaine, Rosemary Galen, avec le directeur d'aviation, Supra Setio, assisté par l'ambassadeur américain Robert Blake, conjointement avec le ministre des Transports, M. Ignatius Jonan, à Jakarta jeudi. La subvention sera utilisée pour financer des projets de développement de systèmes de sécurité de l'aviation dans la région orientale de l'Indonésie. L'ambassadeur américain en Indonésie, Robert Blake, a dit « Comme un vaste archipel avec une grande population et dynamique, le transport aérien était très important pour l'économie et la société de l'Indonésie. Cela vise à améliorer la sécurité aérienne est également d'améliorer l'économie, notamment en Papouasie et au Molouk. 14 entreprises indonésiennes de divers secteurs font la promotion des produits en Roumanie en participant à l'exposition internationale des biens de consommation connue sous le nom TIPCO. C'est la plus grande exposition en Roumanie qui est souvent utilisée par des entreprises locales et étrangères d'introduire des produits et faire des affaires. Selon le communiqué de presse de l'ambassade d'Indonésie à Bucarest, cité par Antara jeudi, des entreprises indonésiennes qui sont en expansion et sont présentes dans l'exposition de produits à Bucarest, entre autres PT Ikatek Jaya Bersama avec des chaussures et des gants de golf, ainsi que PT Kamakmura Niaga Mandiri qui est un exportateur de café. La participation indonésienne à l'exposition est l'un des programmes de l'ambassade d'Indonésie à Bucarest pour promouvoir le potentiel économique de l'Indonésie. TIPCO est une bonne occasion pour les entreprises indonésiennes de présenter leurs produits à la société roumaine et d'établir la coopération avec les entreprises locales. Le ministère du Commerce a l'intention d'améliorer la coordination afin d'accroître les exportations de produits indonésiens au marché américain à travers les informations du potentiel de marché dans cette région. Le directeur par intérim du commerce extérieur du ministère du Commerce, M. Karyanto Supri, a dit à Bandung jeudi que la coordination et l'amélioration des réseaux d'information sur le marché était très important parce que le marché d'exportation dans cette région est assez grand et les produits exportés sont entre autres les composants automobiles, les machines et textiles. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, nous vous présentons maintenant le magazine culturel et l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec la rubrique du magazine culturel. Aujourd'hui, nous visitons la cascade Pechari en province Aceh. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la Voix d'Indonésie. Bien que surnommée la Véranda de la Mecque, la province Aceh n'a pas seulement des destinations touristiques religieuses, il y a aussi une multitude d'attractions naturelles à visiter. L'un d'entre eux est la cascade Pechari. Cette chute d'eau est cachée dans les forêts denses Janto, dont il est encore rarement touché. La chute d'eau ayant l'eau claire est située à environ 60 km ou en voyage de 2 heures en voiture au sud de Banda Aceh. Cette cascade est accessible en véhicule privé. Le transport public sert seulement la route de Banda Aceh au centre-ville Janto. De centre-ville Janto, capitale d'Aceh Besar, les visiteurs doivent traverser environ 10 km au village Bueng, district Janto, étant port d'entrée à la cascade. Il n'y a pas de transport public du centre-ville Janto à Bueng. Pour atteindre cette chute d'eau, vous devez d'abord signaler au groupe de jeunes de la région, car la chute d'eau est située dans les bois et à l'écart du village. Pour le rendre plus sûr et ne se perdre pas, vous devez être accompagné par la jeunesse locale. Vous devez également payer 200 000 rupiah par groupe avec un nombre maximum de 10 personnes. Arrivé au dernier village, le village Bueng, vous devez garer votre véhicule ici. Ensuite, vous devez marcher pendant 2 heures à travers environ 5 km. Pendant le voyage, vous pouvez voir la beauté naturelle et de l'expérience de voyage incroyable. Sur le chemin, vous pouvez sentir l'expérience contre le courant de la rivière Janto. Vous pourrez flâner dans les bois Janto. Cette forêt est la partie des zones forestières protégées. Après cela, vous passerez la rampe. Malgré l'épuisement de grimper la colline, votre fatigue sera payée parce que derrière la colline avait attendu la beauté de la cascade Pechari. La cascade Pechari se compose de plusieurs petites chutes d'eau. Il y a 7 niveaux de cascade. Du haut vers le dernier lac. Chaque chute d'eau a une hauteur entre 1 à 2 mètres. Du loin, la chute d'eau ressemble à un escalier naturel. Chaque chute d'eau a un étang liquide vert bleuâtre en dessous. Ce lac a une profondeur entre 1,5 et 1,5 mètres. L'eau dans le lac était propre et frais, de sorte que les nombreux visiteurs qui jouent l'eau et laissent tremper là. Malheureusement, vous ne pouvez pas nager à cause de la largeur du lac qui est seulement d'environ 1,5 mètres. Parce qu'il est situé au milieu de la forêt, n'oubliez pas d'apporter vos approvisionnements alimentaires. Ici, il n'y a pas de restaurant. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci de votre fidélité. À demain. Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur, un segment régulier avec les différents aspects de l'Indonésie, y compris l'art et la culture, les coutumes et les traditions, la technologie et l'environnement et même le style de vie. L'édition d'aujourd'hui, nous vous informons sur l'électricité verte à partir de déchets de tofu. Chers auditeurs, en 2015, les réserves d'électricité en Indonésie ont été inquiétantes car à partir de 23 réseaux nationaux d'électricité, autant que 11 systèmes électriques sont dans un état de déficit. Cette situation est également aggravée par les conditions dans la longue saison sèche qui cause de nombreuses centrales hydroélectriques ne fonctionnaient pas de manière optimale. Cela a conduit de nombreuses régions d'Indonésie ont connu panne d'électricité. Cependant, les coupures de courant ne sont pas trouvées dans le village de Kalisari à Purwokerto, en province de Jawa Central. Parce que les gens dans ce village utilisent des moyens créatifs et peu coûteux de vivre une vie quotidienne avec le tofu. Comment est la façon? Serviteurs, les habitants du village Kalisari ont environ 150 affaires de tofu. La production de tofu qui contient la nutrition nécessite certainement beaucoup de coûts. Un kilogramme de tofu a besoin d'eau environ 33 litres ou 8,7 gallons. Lorsque le processus est terminé, l'eau résiduelle sera mise dans le système de drainage et se trouve dans la rivière plus proche et les champs de riz. En fait, les déchets du résultat du processus de soja qui devient les matières premières de tofu a encore une forte acidité. Il provoque un manque d'oxygène pour le poisson et son effet est le poisson mort. Pendant ce temps, les déchets de tofu aux champs de riz sont causés par le processus de putréfaction sera décomposé et produit du gaz méthane. Cette situation provoque un déséquilibre de la teneur en éléments nutritifs du sol. En conséquence, le riz pousse mais pousse ou n'a pas produit de graines. Les déchets liquides de tofu contiennent la matière organique et de nutriments. Un sous-produit de traitement des eaux usées de tofu qui est riche en matière organique en anaérobie et l'émergence de biogaz à cause de l'activité microbienne dans le réacteur de processeur de déchets. Le biogaz est un gaz inflammable qui est produit par le processus de la fermentation de matière organique par les bactéries anaérobies. Le contenu du biogaz est dominé par le CH4 ou méthane qui a le grand potentiel comme source d'énergie pour la cuisson, le chauffage ou la convertie en électricité qui est prête à être distribuée aux ménages des artisans pour la cuisson. Serviteurs, en utilisant l'électricité verte, les ménages des artisans au village Kalisari peuvent économiser environ 10 000 à 15 000 roupies par jour, qui est habituellement utilisé pour acheter combustible de poêle. L'autre objectif de l'utilisation des déchets de tofu est d'augmenter l'efficacité du processus de fabrication de tofu en diminuant l'utilisation des matières premières énergétiques. Par l'intermédiaire de la modification de fours fabriqués à partir du métal, l'utilisation du combustible lignon peut être réduite jusqu'à 50%, tandis que le taux d'utilisation des calories peut être augmenté jusqu'à la moitié. En 2015, l'Indonésie est incluse dans les 5 contributeurs principaux aux émissions de gaz à effet de serre. L'année dernière, l'Indonésie a déclaré de réduire les émissions de carbone de 29% en 2030 et est dans le processus de limiter la déforestation à grande échelle. Bien que le tofu ne surmonte pas encore les problèmes environnementaux dans le monde, un petit village Kalisari peut être la source d'inspiration qu'il y a beaucoup de façons pour produire l'énergie, même provenant de moyens et matériaux inattendus. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie encore pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Comme la fin de notre émission, nous vous présentons le magazine musical.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers fidèles amis, la voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde. Je vous souhaite que vous restiez fidèles à l'écoute de nos émissions. Vous pouvez entendre nos émissions via émetteur à Ankout sur 9525 kHz, via le streaming audio sur www.voi.co.id ou bien via l'application RRI Play sur votre gadget ou portable. Chers auditeurs ou chers fidèles amis, pour cette édition, on vous présente dans la rubrique Magazine de musique avec le chanteur indonésien Didi Kempot. Bon, comme le début de notre rencontre, allez écouter d'abord la chanson de Didi Kempot. Bonne écoute.
Thank you.
Chers auditeurs, de la Voix de l'Indonésie, vous avez le vrai nom de Didi Kempot et Didi Prasetyo. Il commence sa carrière comme chanteur traditionnel javanais à Java Central. Didi Kempot est le fils de comédien traditionnel célèbre de Java, le défunt Rianto Edi Gudel Okunu Mbah Ranto. À la ville natale de Solo, Didi Kempot est connu comme chanteur de Campursari, c'est-à-dire le rythme qui est mixé entre le traditionnel avec le moderne. Vous avez à Solo, c'est aussi le maestro musicien Gesang. Mais pour les habitants de Solo, Didi Kempot donne aussi le plus pour eux. Bon, chers amis, allez encore écouter la chanson de Didi Kempot intitulée « Sepanjang Jalan Kenangan ». Bonne écoute.
Terima kasih.
Serviteurs amis, la vie de Didi Kempot est si dure pour avoir le succès, et bien comme être chanteur célèbre. Puis, grâce à son grand esprit, elle devient musicien populaire, surtout au rythme de Jean de Cronchon mixé avec Campur Sari. Et vous savez, outre dans l'Indonésie, la popularité de Didi Kempot est jusqu'au Suriname, où les descendants Javanais vivent. Alors, le mode de vie se réfère en Indonésie surtout aux Java. Servis les amis, c'était le musicien ainsi chanteur Didi Kempot. Et avant de vous quitter de notre rencontre, écoutez d'abord les deux dernières chansons de Didi Kempot, intitulées Bunga Anggrek et Kisah Seorang Pramuria. Merci de votre fidélité et attention, bonne écoute et au revoir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
C'était le magazine musical comme la fin de notre programme. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.